Natessa Sastri, le porteur de sachets, dans la ville de Pushpapura, au sud de l'Inde, vivait jadis un pauvre messager nommé Tam Singh. Son salaire ne dépassait pas 7 roupies par mois, dont il dépensait 5 roupies pour son entretien. Il épargnait le reste. Après 5 ans, il compta son épargne. Il se trouva qu'elle s'élevait tout juste à 120 roupies. En vain, comptant et recomptant son argent à plus de 20 reprises, Tam Singh espéra-t-il trouver davantage? Son petit pécule ne dépassait pas 120 roupies. Il tomba dans une triste rêverie, se disant en lui-même, « Hélas, voilà qu'après 5 ans de travail, j'ai pu épargner préniblement 120 roupies. Mais que puis-je faire de cette faible somme? Est-ce assez pour acquérir une bonne demeure, afin de m'abriter? Non. Puis-je me marier avec une telle dot? Non. Il me faudrait servir 5 ans de plus, au moins, épargner autant encore pour m'acheter une misérable lutte. Et pour une belle femme, 500 ou 600 roupies sont indispensables. L'épargne de plus de 20 ans, de 30 ans de servitude. En ce temps, je puis mourir. Bien mieux. Vaudra-t-il le chercher quelque autre route de quitter la vie chétive que je mène? On dit que Tavudua Seti commença, voilà 10 ans passés, avec la misérable somme de 10 roupies, un commerce en gousse. Et le voici un Navakroti Narayana Seti, possesseur de vastes bazars et de navires. Or, j'ai 12 fois la somme avec laquelle il débuta dans la vie. Alors pourquoi la fortune ne favoriserait-elle pas à mon tour? La tête remplie de ses pensées, Tam Singh quitta son emploi et, s'abandonnant à la fortune, ouvrit un humble bazar pour l'achat et la vente de gousses, semblablement à Tavudu Seti. Durant l'année suivante, après un commerce vigilant, il réussit à doubler son capital. Et propriétaire de 250 roupies, il changea son bazar à gousses contre un bazar de noix et de feuilles de bétel. Après la seconde année, son capital s'éleva à 500 roupies et il échangea vite son bazar de feuilles de bétel contre un bazar de confiserie. Or, la confiserie, dans l'Hindoustan, promptement quintuple le capital si le commerçant évite de vendre à crédit. Tam Singh fut très prudent, et avant que la 3e année ne fût écoulée, il avait accumulé plus de 3 000 roupies. Il pensa alors que la fortune l'avait pour favori, comme elle avait eu Tavudu Seti. Chaque année, il transforma son commerce en un commerce plus lucratif et plus honorable. Toujours très prudent et très honnête, il n'oublia jamais la pauvreté de sa condition originelle. Enfin, après 10 ans de travaux heureux, il réalisa son ambition de devenir un Navakroti Narayana Seti, car il fut un grand marchand de perles. Perles et diamants de l'eau la plus pure furent les uniques articles de son négoce. Comment comparer sa nouvelle condition avec celle où il croupissait 10 ans auparavant? Alors il était un humble messager à 7 roupies par mois. Maintenant il commande lui-même à 1 000 messagers, dont chacun reçoit un salaire de 7 roupies par mois, et son revenu égal surpasse celui de Raja. Tam Singh songea que ce serait un grand péché que de ne pas se réjouir en son existence. Aussi, il acheta un vaste palais à Pushpara pour plus de 60 000 roupies et épousa une vierge nommée Kamala Bai de la meilleure famille Singh de la cité. Son négoce jamais ne faillit. Et l'étoile de sa femme aussi le favorisa, car il devint plus riche chaque jour de sa vie. 2 ans après son mariage, il eut un fils, son premier-né, qui fut très beau en son apparence. Il le nomma Ram Singh et l'éleva dans la tendresse. 3 ans plus tard, une autre fille lui naquit, qu'il dénomma Lakmana Singh. Et après 2 ans encore, vint un troisième fils, le plus beau des trois, qui fut appelé Krishna Singh. Ainsi, après 7 ans de la vie de mariage, il fut le père de 3 des plus beaux fils de la cité, dont l'aîné avait 5 ans d'âge. Or, étant un homme prudent autant que riche, il ne laissa pas une pierre en place pour donner l'éducation sage à ses fils. Mais, conformément au proverbe que « l'aîné est toujours stupide », Ram Singh fut désespérément faible d'intelligence. Nul effort d'instruction n'agit sur sa lourde cervelle, encore que ses maîtres ne fussent point avares de coups de verge. Le Molari, le Pandi, le Yupadi Ayar et d'autres vers chacun à leur tour et n'épargnèrent point leur peine. Mais rien n'eut d'effet sur Ram Singh, qui grandit en élégance, s'habillant ainsi qu'un Raja, dévorant comme un glouton, préférant la société des gens désordonnés et prodigues. Lakmana Singh était autrement constitué, point très intelligent, mais laborieux à l'extrême, avec le cerveau modéré que Paramesavala lui avait dispensé, il progressait dans ses études. C'est dans le plus jeune des 3 frères que les éducateurs trouvèrent un véritable étudiant. Il déploya une merveilleuse intelligence, s'assimilant tout à la première innovation, donnant des joies vives à ses maîtres autant qu'à ses parents. Ceux-ci l'adorèrent, et comme le plus jeune de leurs enfants, et comme donnant de hautes espérances. Ainsi allèrent les 3 fils de Tam Singh, jusqu'au jour où Ram Singh atteignit sa 18e année, tandis que Lakmana Singh avait 15 ans et Krishna Singh 13. À cette époque, un événement extrêmement pénible advint dans la famille. Tam Singh, un matin, après 20 ans de vie conjugale heureuse, médita sur sa misère passée et sur son bonheur présent, et appelant Kamala Bai et sa femme, lui dit de donner 300 roupies à chacun de ses fils, afin qu'il les dépensasse à se réjouir. Kamala Bai, selon ce vœu, donna à Ram Singh sa part aussitôt qu'il revint de sa promenade matinale, lui disant que c'était un présent de son père. Il prit le don allègrement, sans même s'informer du motif pour lequel on lui faisait, et prit son déjeuner de riz froid, puis s'en alla dans la maison d'une bayadère et lui présenta les 300 roupies. Peu après que Ram Singh eut quitté la demeure, Lakmana Singh revint de chez ses maîtres pour prendre son déjeuner de riz froid. Comme il était assis devant sa feuille, sa mère lui remit le présent. Lui s'enquit du motif, il lui fut répondu que c'était pour une réjouissance. Lakmana Singh reçut l'argent avec joie et le dépensa en livres et en vêtements. Krishna Singh arrivait toujours en retard à ses repas. Lorsqu'il revint à la maison, longtemps après les autres, sa mère lui remit sa part, tandis qu'il mangeait son riz froid, l'informant aussitôt que c'était pour une réjouissance. Krishma Singh rit à l'idée de dépenser 300 roupies à une réjouissance et réprimanda sa mère pour lui avoir apporté cet argent, encore que son père lui destinait pour lui. Il trouva très inconsidéré de la part de Tam Singh de songer à donner 300 roupies pour une dépense inutile. À ce taux, il dépenserait 9000 roupies en un mois et deviendrait un vagabond au bout d'un ou deux années. Aussi demanda-t-il à sa mère de rendre l'argent à son père, de le prier de l'enfermer dans un coffre afin de l'employer à quelque usage utile. La mère apporta l'argent selon ses désirs et le père, tout heureux de l'esprit de son plus jeune fils, désira doubler le présent. Le jeune garçon persista dans son refus, mais le père ne voulut pas céder et voulut contraindre Krishma Singh à prendre les 600 roupies. Celui-ci refusa obstinément. « Qu'est-ce donc ? » s'écria Tam Singh. La cause qui te porte, toi, toujours si obéissant, à être si opiniâtre aujourd'hui. Ne cherche pas à deviner l'impossible, répliqua l'adolescent. Tam Singh fut outré de colère, aveuglé par l'orgueil de son opulence, et demanda : Mais quelque chose en ce monde est-il impossible à ton père ? Krishma Singh rit de la folie de Tam et répondit affirmativement. « Prouve-moi donc l'existence de cette chose ?» reprit le négociant. « Eh bien, te serait-il possible de marier ton fils à la princesse de Pushpapura ?» Or Krishma n'espérait nullement devenir le beau-fils du roi. Il imaginait ceci simplement comme exemple d'une chose qu'il serait impossible à son père de réaliser. Tam Singh n'eut pas plutôt entendu mentionner le nom de la princesse que l'idée le frappa que son fils était réellement amoureux d'elle, et cela à l'âge si tendre de 13 ans. Il ôta sur le champ ses pantoufles et en battit Krishma Singh rigoureusement. L'enfant accepta la punition avec plus grand calme, puis, arrachant les pantoufles des mains de son père, il s'enfuit avec la légèreté d'un milan. Il rôda à travers la cité sans rencontrer aucun de ses amis, aucun de ses parents, jusqu'à ce que tombèrent les ténèbres. Alors il put se glisser sans être aperçu de personne dans le temple de Kali. Là, il choisit une niche convenable dans l'une des murailles d'enceinte et, y plaçant les pantoufles avec lesquelles son père l'avait battu, les couvrit d'une couche de mortier, puis les abandonna en sûreté. Après cela, il ne désira pas demeurer plus longtemps à Pushpapura. Pour jeune et tendre qu'il fût, il ne craignit pas d'aller en quelque autre ville pour y essayer sa fortune dans une existence indépendante. Ainsi, Krishna Singh quitta la cité cette même nuit, marcha vers le nord sans savoir où il allait aboutir, et sans plan prémédité, se confia simplement à sa destinée. Il marcha jusqu'à ce que ses pieds le fissent souffrir, mangea ce qu'il put se procurer en racines et en fruits, dormit au hasard des campements, agissant dans toutes choses comme un être qui ne donne aucune importance à sa vie. C'est ainsi qu'il traversa les forêts, les montagnes, les déserts, les contrées sauvages et les eaux, jusqu'à ce qu'il arriva dans une grande cité laquelle on lui apprit être Tarapura, la capitale de l'empereur ou seigneur Odisque, auquel les 56 souverains du monde rendaient hommage. Or, l'empereur de Tarapura n'avait pas de fils, mais une fille unique qui était considérée comme la plus admirable princesse de l'univers. Son nom était Chandramukhi. Elle n'avait pas dépassé l'âge de 9 ans et poursuivait ses études dans l'école des princes de Diapura. Ce Raja Kumar, ou école royale, était une institution spécialement organisée pour l'éducation des membres de la famille royale. Et durant les heures de classe, une troupe de gardes du corps attendait toujours extérieurement et accompagnait la princesse et ses compagnons d'études au long du chemin. Le fils du ministre, Ramachandra, le fils du chef des armées et d'autres enfants de noble parentage étaient ses compagnons d'école. Il advint que Krishna Singh eut à passer par la rue dans laquelle était situé le collège, et l'un des gardes royaux, qui était de la caste des Singh, le reconnut comme un jeune garçon de sa race. S'appuyant sur la destinée perdue d'un si beau et tendre adolescent, il l'appela auprès de lui et lui demanda qui il était. Krishna Singh, feignant d'être imbécile, répliqua qu'il ne se connaissait pas lui-même, qu'il était vagabond d'aussi loin qu'il puisse se rappeler, et qu'il n'avait point de parents. En ce moment, la princesse Chandramukhi sortit du collège pour demander un verre d'eau. Saisie d'étonnement par la beauté et la majesté de Krishna Singh, encore qu'il fût défiguré et recru de fatigue par ses longues rôderies, elle lui demanda son nom et son parentage. Il répondit à la première question, et quant à la seconde, il affirma ne savoir rien de son origine, excepté qu'il était un orphelin. Elle lui demanda alors s'il aimerait de la servir. Sur sa réponse affirmative, elle lui donna sur l'heure l'emploi de tuk-tuki, ou porteur de sachets, et lui dit que son devoir serait d'être continuellement à ses côtés et de porter son sachet derrière elle, tant lorsqu'elle irait à l'école que lorsqu'elle se retournerait au palais. Elle lui promit en retour de le nourrir et de l'élever aussi bien qu'elle-même. Que pouvait désirer de plus Krishna Singh? Il sourit d'allégresse et, acceptant l'offre avec remerciement, suivit Chandramukhi à sa classe et de ce jour la servit sans intermittence. La princesse obtint la ratification de son père pour l'emploi qu'elle avait donné à Krishna Singh, et fidèle à sa parole, elle éleva avec une preuve d'entière tendresse. Il prit ses repas à côté d'elle, et, excepté qu'il portait le sachet, il n'y eut aucune différence extérieure entre eux. L'opinion générale parmi le peuple fut que l'empereur permettait cette familiarité entre sa fille et Krishna Singh parce qu'il avait le projet de les marier l'un à l'autre lorsqu'ils seraient plus âgés. Mais comme tout le monde était aussi d'opinion que Krishna était un garçon très stupide, l'idée de ce mariage fut accueillie avec défaveur. Car il faut dire que Krishna Singh, depuis qu'il était au service de la princesse, continuait à simuler l'imbécilité. Et lorsqu'un des compagnons d'école de Chandramukhi lui avait demandé s'il savait lire et écrire, il répondit qu'il le savait, mais à peu près aussi bien qu'il savait voler dans les airs. Oh, il ne s'en tint pas là, En maintes occasions, il se conduisit si sottement que tous ceux qui le connaissaient le crurent le garçon le plus simple qui vécut jamais en ce monde. La princesse partageait cette croyance, mais ne fut pas moins bonne envers lui pour cela. Elle demeura avec lui dans les termes de la plus étroite intimité, si bien que le public chuchotait de plus en plus qu'elle avait l'intention d'épouser le jeune Singh. Or, si Krishna Singh avait montré qu'il était aussi intelligent qu'elle, ou davantage, il en eût été bien autrement. Beaucoup eussent accepté l'idée du mariage, tandis qu'à présent l'empereur seul y tenait, car il était convaincu que Krishna Singh était le meilleur choix que sa fille pût faire. Certes, il était très stupide, mais qu'importe, puisque sa fille serait assez intelligente pour tout gouverner en sa maison et en son royaume. N'était-il pas indispensable que son égal en beauté devint son époux? Et puisque Krishna Singh réalisait cette condition, pourquoi ne pas l'accepter? Ainsi songeait l'empereur, et sous la domination de cette idée, il n'aimait pas à trouver l'intimité grandissante entre le jeune Singh et sa fille Chandramukhi. La princesse fut en état de se marier dans sa 16e année, 7 ans après que Krishna Singh entrait à son service. Ramachandra, le fils du ministre, depuis longtemps avait le projet de l'épouser. Une ou deux fois, il avait osé le lui dire. Elle ne parut pas accueillir désagréablement le projet et continua d'aller à l'école royale même après qu'elle fût devenue grande. Un jour, avant l'heure où se ferme le collège, Ramachandra prit une feuille de Jalika de son maître et attendit une occasion de parler à la princesse. Peu après, elle partit vers le palais, son tututuki Krishna Singh marchant devant elle, selon l'usage, avec le sachet, et ses gardes le suivaient. Ramachandra s'assit auprès d'un char et demanda à la princesse de venir vers lui, car il avait un secret à lui dire. Il intima aux gardes l'ordre de se tenir à l'écart afin de ne pas entendre ce qu'il voulait dire à leur maîtresse, puis pria le tukutuki de marcher quelques pas de l'avant. Or le tukutuki, prétendant de s'éloigner au plus vite, réussit à atteindre sans être vu l'autre côté du char. Et de là, il entendit tout ce qu'ils se disaient entre eux. Ramachandra demanda à la princesse si elle voulait adhérer à sa promesse de l'épouser. La princesse lui répondit qu'elle en serait très fière, tant pour la noblesse de son parentage que pour l'élévation de sa culture intellectuelle, mais elle lui dit aussi que son père pourrait ne pas aimer leur union, parce que lui, Ramachandra, n'était pas remarquable d'apparence, et que c'était l'intention déclarée de l'empereur de ne la donner qu'à l'homme qui l'égalerait en beauté. Elle ajouta que comme elle aimait beaucoup l'idée de ce mariage, il serait préférable s'enfuir vers quelque place où ils puissent s'épouser. Ils fixèrent alors un jour pour la fuite, le 8e jour après celui-ci, et se séparèrent. Aussitôt que la date de sa fuite fut fixée entre eux, Krishna Singh se glissa inaperçu le long du char et se tint à quelque distance. Comme les gardes étaient trop loin pour avoir rien perçu de la conversation, Ramachandra et Chandramukhi crurent bien que nul n'avait pu surprendre leur secret et s'en allèrent chacun chez soi avec l'esprit tranquille. La nuit passa comme de coutume, mais le lendemain matin, tandis que l'empereur tenait sa cour, tout soudain le Tututuki vint et dit qu'il désirait lui parler secrètement de quelque affaire. Comme l'empereur aimait Krishna Singh mieux que sa propre vie, il accéda sans délai à sa requête et demanda à chacun de quitter la salle pour quelques minutes. Attirant une chaise vers lui, l'empereur dit au Tututuki de la prendre et de lui dire sa nouvelle. Krishna Singh alors lui demanda « Savez-vous comment les rois doivent élever leurs filles ?» L'empereur demeura absolument confondu de ceci. Il avait toujours cru le Tututuki le plus stupide des hommes sur la terre, et voilà qui lui posait une question de la plus haute difficulté. Le Tututuki lui dit ensuite que d'aussi hautes autorités que Manu, Vyasa et d'autres avaient écrit que le roi enverrait sa fille à l'école jusqu'à sa 7e année, et qu'après cela, il était toujours préférable de l'avoir instruite par des professeurs privés jusqu'à ce qu'elle fût adulte, et qu'après cela, elle recevrait l'éducation d'après le système Parda, selon lequel le maître est assis d'un côté d'un paravent et la jeune fille de l'autre côté, aucun des deux ne pouvant apercevoir l'autre. Il dit finalement à l'empereur qu'il avait omis l'observance de chacune de ces excellentes règles et que, comme résultat, sa fille avait cessé d'être sa fille. Puis il conta ce qu'était advenu le soir précédent. L'empereur fut excessivement heureux des preuves d'intelligence et de la fidélité montrées par le jeune homme en lui apportant ses nouvelles avant qu'il fût trop tard. Il demanda à Krishna Singh de garder un secret absolu sur l'événement afin qu'il pût prendre les mesures nécessaires pour prévenir l'enlèvement projeté entre sa fille et Ramachandra. Il donna immédiatement l'ordre à tous les artisans de Dialapura de se rendre au palais dans les 2 heures. Ces ordres furent fidèlement exécutés, et quand les ouvriers furent assemblés, l'empereur leur demanda s'il leur était possible d'édifier un grand palais haut de 7 étages en 2 jours. Ils répondirent qu'avec la faveur miséricordieuse de l'empereur, ils pourraient faire cela en 1 seul jour. Le souverain prit les arrangements nécessaires, priant le ministre et les autres fonctionnaires de suspendre tous les autres travaux afin de surveiller la bâtisse du palais et de faire chercher tout ce qui était nécessaire. L'empereur, alla voir sa fille, se tint auprès d'elle, la surveillant ainsi qu'une voleuse. Personne ne pouvait deviner quelle était la destination du palais, et personne n'avait la hardiesse de le demander. Mais il progressa rapidement. On eût dit que la nature même obéissait aux ordres de l'empereur. Un immense palais haut de 7 étages fut achevé avant la 8e Ghatika du soir même. Le ministre et d'autres officiers, députés pour surveiller le travail, envoyèrent avis à l'empereur que l'édifice était terminé et, avec sa permission, s'en retournèrent pour dîner. Telle fut la hâte avec laquelle l'œuvre fut menée à la fin. Ensuite, l'empereur appela tous les eunuques et leur ordonna d'aller garder les 3 étages supérieurs du palais et de défendre à quiconque de passer ou repasser, excepté à 1 ou 2 personnes qu'il allait mentionner. Quant aux 4 étages inférieurs, il envoya pour leur garde chercher les soldats pensionnés à qui on donna les mêmes ordres qu'aux eunuques. Après avoir ainsi mis sa garnison dans le palais, il dit qu'il le destinait à sa fille, afin qu'elle y vécût jusqu'à l'époque de son mariage, et qu'avec elle, il vivrait 20 suivantes féminines pour la servir, comme domestique et comme compagne, à la tête desquelles devait être une femme nommée Selam. Seul Selam et le Tututuki devaient prendre des provisions et autres nécessités au palais à cet étage. Excepté Selam et le Tutuki, et naturellement ses parents, personne n'était autorisé à voir la princesse. Tout homme ou femme, qui que ce pût être, qui tenterait d'entrer dans le palais, même par ignorance des interdictions, sa tête devait être tranchée sur le champ. Ainsi, le soir même qui suivit celui où elle avait préparé sa fuite avec Ramachandra, la princesse était captive. Jamais elle n'avait rêvé rien de semblable. Quoi, nulle créature, sauf le Tututuki et Selam, de franchir le seuil du palais à cet étage? Mais quelle était donc la cause de ceci? Quelque espion avait-il porté à l'empereur la nouvelle de son prochain départ, après avoir surpris le secret de son entretien avec Ramachandra? Non, ce n'était pas possible. Elle avait trop soigneusement observé les alentours. Et une idée la frappa soudain. Le Tukutuki. Peut-être avait-il surpris quelques bribes de l'entretien derrière le char, et l'avait-il trahi? Mais comment admettre ceci de la part d'une aussi sotte créature? Toutefois, dans son anxiété, ce soupçon la hantait. Elle résolut de sonder son compagnon par la ruse. Or, c'était vers la 15e gatika de la nuit. La princesse était assise, l'esprit plein de troubles et de détresse, et ne pouvant songer à rien d'autre qu'à la cruelle et soudaine frustration de ses projets. Krishna Singh était devant elle, et voulant le sonder, elle commença par ces paroles. « Le Tutukuti veut-il m'apporter le livre qui est sur cette armoire, l'ouvrir à la 11e page et lire ?» Krishna Singh la regarda avec colère pendant 2 minutes, puis, se levant, prit le livre sur l'armoire, mais au lieu de le lire, il le déchira avec force, et tenant les morceaux entre son pouce et son index, les flaira et se mit à verser des larmes et à sangloter. Ce fut avec grand-peine que la princesse parvint à le calmer. « Mais qu'avez-vous ? » lui dit-elle. « Quelle cause vous a fait ainsi maltraiter ce pauvre livre ?» Et il s'écria. « Princesse, c'est vous qui me recueillîtes, orphelin. C'est vous qui me protégeâtes bien tendrement durant cette année. Vous, si riche et puissante, qu'est-ce qui vous en aurait coûté de prier l'un de vos maîtres de consacrer un ou deux gakas par jour à mon instruction? Vous ne l'avez pas fait. Et vous-même, si instruite, suis-je pas éternellement à vos côtés? Vous auriez pu m'enseigner pendant une ou deux gaktikas chaque jour. Cela encore, vous ne l'avez pas fait. Et me voici âgé de plus de 20 ans. Je ne sais comment dire, Hariman, connaissant vous-même tant de choses, vous venez me couvrir de honte en présence de vos esclaves, car sinon quelle raison pouvez-vous avoir eu de me demander à moi qui ignore tout, comme vous le savez trop bien, d'ouvrir ce misérable livre à la 11e page? J'ai tout simplement signifié en déchirant le livre. Le voilà, glissant par terre. Toute mon ignorance est votre faute. Ainsi parla le tuk-tuki, et la princesse crut à ses paroles, et se tenant pour un sot irrémédiable, pensa qu'elle avait été insensée en concevant des soupçons contre cet homme simple. Elle loua tous ses dieux familiers pour lui avoir donné les services de Krishna Singh, maintenant surtout que l'empereur lui avait accordé le privilège d'entrer et de sortir de la prison-palais. Elle songea à tirer le meilleur parti de ce privilège. En un mot, elle se détermina à l'employer comme un messager d'amour entre elle et son amant. Et aussitôt que cette idée naquit dans sa tête, elle prit une feuille de papier et écrivit à Ramachandra comment elle avait été emprisonnée, l'impossibilité d'expliquer la cause de cette mésaventure, sa passion invariable pour lui et sa résolution d'accomplir tout acte que lui, Ramachandra, lui recommanderait. Finalement, elle suppliait le fils du ministre de la délivrer de sa captivité, de l'emporter où que ce fût, et de l'épouser. Après avoir écrit cette lettre, elle la signa très tendrement, déjà se disant sa femme, la cacheta soigneusement et la donna au Kutukutuki. Tu porteras cette lettre à la dérobée à Ramachandra, mon compagnon d'école, fils du ministre. Tu prendras les plus grandes précautions. Tu ne la laisseras pas tomber par négligence. Tu ne la montreras à personne. Et même, tu éviteras les soupçons de tout le monde en la tenant cachée. Le Tuk-tuki lui demanda de lui confier à lui seul le contenu de cette lettre dont elle était si inquiète. Elle rit de sa sottise. Elle contient des questions. Krishna Singh fut feigné d'être hautement satisfait de sa réponse et promit de porter la missive de bonne heure le lendemain matin à Ramchandra, car ce soir il était trop tard. Quant au pauvre Ramchandra, aussitôt que son père lui eut conté l'affaire du palais, il pensa que d'une ou d'autre manière, sa conversation avec la princesse Chandramukhi avait dû être connue de l'empereur. Il abandonna toute espérance et trembla pour sa vie. L'empereur n'ordonnerait-il pas de trancher sa tête le lendemain matin? Il n'osa rien dire à son père et attendit avec abattement la conclusion des événements. Le matin vint, la princesse et le tuk-tuki se levèrent et prirent leur déjeuner en grande hâte. Puis Chandramukhi ordonna à Krishna Singh d'aller trouver Ramachandra sans perdre un instant. Le tuk-tuki enferma la lettre dans une demi-douzaine de mouchoirs, prenant grand soin de nouer chacun en présence de la princesse. Elle rit de cette innocence, lui disant que sûrement la lettre était bien protégée. Il prit alors le petit paquet sous son bras et partit en courant. Cependant, Krishna Singh n'avait aucune idée d'aller avec la lettre chez l'empereur, car il savait depuis longtemps que Lakshmanadin Pradipati avait le désir de lui donner sa fille en mariage, et en dépit de l'opinion défavorable qu'avait de lui le peuple et la princesse même, il ne désespérait pas d'obtenir sa main. Lorsqu'un péril avait menacé ses plans sous la forme d'un enlèvement, il crut que s'il ne dénonçait pas la chose à l'empereur, et obtenait que la princesse fût emprisonnée en lieu sûr, il pouvait la perdre à jamais. Alors il n'avait pas hésité à tout dévoiler. Et sûrement la princesse était bien gardée maintenant. Nul Ramachandra ne viendrait la lui enlever. C'est lui, Krishna Singh, qui allait jouer le rôle de Ramachandra sans que personne le sût. Prouver quelle manière d'homme il était. Et ainsi retourner l'opinion généralement admise par les autres à son propos. Il songeait aussi qu'une telle conduite lui conquerrait mieux le cœur de la princesse et les éloges de l'empereur. C'est afin d'atteindre ce but qu'il avait travaillé depuis de longues années et se détermina, s'il était possible, de partir avec Chandamukhi au 8e jour proposé lui-même, reprenant la succession de Ramachandra. Il savait d'ailleurs que nulle régulière action n'était possible en un temps aussi bref. Ainsi rêvant, il continuait sa route. Se dirigeant vers un bazar, il y acheta du papier, une plume et de l'encre. Muni de ces objets, il pénétra dans la jungle la plus prochaine, à l'abri de tous les regards. Là, il ouvrit la lettre, en lut le contenu, et immédiatement commença d'y répondre au nom de son rival, Ramachandra. Or, ayant été toujours dans la même classe que le fils du ministre, le Tukutumaki avait appris très bien à imiter son écriture. Et la réponse fut ainsi. « Ma chère femme, toutes les grâces pour votre tendre lettre. J'avais tout appris de votre captivité par mon père, même avant que vînt votre lettre, et je soupçonnais quelque chose de secret. Quelque mauvais esprit a sûrement compté à votre père nos arrangements, mais je ne suis pas homme à reculer devant l'infortune. Obtenez de votre père qu'il vous place dans la 14e chambre, de laquelle je vous délivrerai dans 6 jours. Seulement, il faut me donner toute assistance dont je pourrais avoir besoin par l'intermédiaire de cet imbécile. Si sot soit-il, pourtant nous devons nous tenir heureux de son aide en ce moment. Envoyez-le-moi avec un calendrier de roupies afin de pourvoir au voyage. » La lettre suivante vous donnera toutes les indications nécessaires. Votre époux futur, Ramachandra. Avec pleine présence d'esprit et en parfaite imitation de l'écriture de Ramachandra, le Tukutuki forgea cette lettre. Ensuite, il la cacheta, la noua dans sa serrure de mouchoir, et pendant le tout sous son bras, retourna auprès de la princesse avant la moitié du jour.